La psychanalyse en réanimation, évidemment, c'est un peu particulier. Ça ne ressemble certainement pas à la cure type. Mais les questions qui viennent là se poser, c'est-à-dire la question du fantasme, la question du réel, sont bien les mêmes et sont tout à fait au plus près de ce qui se passe là dans le service. C'est un peu particulier la façon dont j'ai commencé à travailler dans cette unité de réanimation de l'hôpital de Saint-Denis, à l'hôpital de La Fontaine, puisque je travaillais dans les hôpitaux de Saint-Denis en pédopsychiatrie, et que ce matin-là, il y a à peu près 20 ans, nous étions en réunion de synthèse quand le médecin-chef qui était là à l'époque, qui était le docteur Cohen, reçoit un appel du médecin-chef de réanimation néonatale. Ce monsieur cherchait un psychiatre, parce qu'il y avait, disait-il, une femme folle dans son service. Donc le médecin-chef dit « Ah bon, je peux t'envoyer quelqu'un si tu veux », se retourne vers nous et dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait monter au troisième étage ?» Il se trouve que le patient suivant ne venait pas et que je dis « Écoute, moi je veux bien monter ». Et ils attendaient un psychiatre pour calmer une folle, peut-être m'attendait-il d'ailleurs avec une camisole de force ou quelques injections qui l'auraient calmé. Il se trouve que le médecin-chef de pédopsychiatrie l'aura adressé à un psychanalyste, c'est-à-dire moi, je me suis retrouvée là. Sans rien savoir de ce que pouvait être une naissance prématurée, sans avoir déjà entendu de mères qui avaient accouché prématurément, je me retrouvais dans ce service à rencontrer une maman qui était dans une crise d'agitation aiguë et très désespérée, très très désespérée, qui voulait tout casser et qui d'ailleurs commençait à s'attaquer au personnel et aux objets qui étaient dans le service. Elle jetait les couveuses par terre, vides, mais les couveuses par terre. Et donc, ils étaient totalement affolés et pensaient qu'il fallait psychiatriser cette maman tout de suite. Donc, j'ai parlé avec elle et je l'ai laissée m'apprendre de quoi il s'agissait. Moi, j'arrivais avec les outils qu'ont en main les psychanalystes, hein. C'est-à-dire que j'étais habituée à travailler en pédopsychiatrie, certes à l'hôpital, mais aussi en consultation privée chez moi où je recevais déjà des adultes, et je connaissais le cadre du divan et du fauteuil, et là ça a été pour moi une grande découverte. Donc cette maman m'a enseigné le drame que pouvait être pour une mère la naissance d'un enfant prématuré. C'était d'autant plus étonnant que cet enfant prématuré était un des tout premiers 1000 grammes que le service avait sorti d'affaire. Et je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et c'était absolument incroyable. Tout le service était ravi d'avoir. C'était le début de l'usage des surfactants. Donc ce bébé avait pu guérir de sa maladie des membranes hyalines sans trop de difficultés. Et n'avait pas de séquelles. Et donc, l'équipe était absolument satisfaite de son travail. Et lorsqu'ils avaient dit à cette maman, vous pouvez revenir, reprendre votre bébé, non seulement aujourd'hui il va bien, mais il n'aura pas de séquelles, la maman a dit, je n'en veux pas. Ils ont été très déçus qu'elle ne soit pas reconnaissante, très déçus qu'elle ne dise pas tout de suite, j'arrive, je me précipite. Elle a dit, je ne le reprendrai pas. Et le ton a monté, si bien que cette maman a fini par vraiment faire une crise qui n'était pas de folie, mais une crise de désespoir, où elle m'a expliqué, quand moi je l'ai vue, je l'ai revue tous les jours, je montais la voir après, jusqu'à ce que 8 jours plus tard, elle reparte avec son bébé. Elle m'a dit un jour, mais comment voulez-vous que je reprenne cet enfant? Moi, je comprends bien que cet enfant, c'est vous qui lui avait donné la vie dans le service, moi je lui avais donné la mort. Et si je reprends mon enfant, il va mourir. Donc ça évidemment c'est quelque chose que les médecins ne pouvaient pas entendre. Et j'ai, parce qu'elle ne leur avait pas dit d'abord, parce qu'elle ne lui avait pas posé la question, ils auraient pu, hein. Je ne dis pas que les médecins sont incapables d'entendre ça, ils sont tout à fait capables, sauf que le problème c'est que personne n'avait posé le cadre qui permettait que cette mère parle. On avait même un peu oublié de la laisser venir les derniers temps. Et elle s'était retrouvée complètement perdue à l'idée de reprendre ce bébé. Donc j'ai compris ce jour-là quelque chose de ce désarroi terrible dans lequel se trouvaient les mamans. Et puis, je suis retournée dans mon service de pédopsychiatrie. J'ai continué à recevoir des enfants. Et peut-être un mois après, recoup de téléphone du médecin-chef de néonat qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez remonter ?» À nouveau, il y a une femme qui est folle. Jusqu'au jour où j'ai dit à ce médecin-chef « Écoutez, moi, je pense vraiment, chaque fois que vous m'appelez pour une femme folle, c'est des femmes pas folles, mais juste très malheureuses et qui, de toute évidence, n'ont pas du tout été accompagnées dans le temps d'hospitalisation de cet enfant. » Il n'y avait pas de psychologue du tout dans le service, encore moins de psychanalyste, mais pas de psychologue. Donc, ils étaient très en panne au moment des sorties et ils pensaient que c'est parce que les mères étaient des malades mentales, vous voyez, alors que c'était le mode de fonctionnement du service qui ne permettait pas que la sortie puisse se passer de façon satisfaisante pour les mamans, mais aussi du même coup d'ailleurs pour les médecins. Donc, à ce moment-là, j'ai dit au médecin-chef, écoutez... moi, je ne vais pas travailler comme ça en venant chaque fois qu'il y a un problème. Je pense que vraiment le problème est au sein de l'équipe et peut-être dans votre façon de considérer ce qu'est la réanimation. J'ai longuement parlé avec lui ce jour-là. Je lui ai dit que je pensais que réanimer était une chose essentielle, bien sûr, que le travail qu'il faisait était tous dans cette équipe était exceptionnel. Mais qu'il fallait aussi, comme dans toutes les équipes de réanimation, je veux dire, c'est incroyable le travail que font ces médecins, mais qu'il fallait aussi peut-être laisser un peu de place pour réanimer quelque chose qui serait du côté du désir, que l'être humain n'est pas une machine et qu'on ne peut pas juste le réanimer pour que ça fonctionne. Encore faut-il qu'il désire. Et que les parents aient du désir à le reprendre, que le bébé désire vivre. Donc j'ai proposé, j'ai dit, moi je veux bien travailler avec vous, mais à ce moment-là, travailler sur le mode de fonctionnement du service et qu'on essaie de voir comment on peut reprendre les choses pour qu'une autre approche du service soit possible pour les parents et pour les bébés. Donc ce jour-là, comme je pense qu'à la suite de ça, il y a eu plusieurs problèmes encore, le médecin-chef a réfléchi et puis peut-être 3 ou 4 mois après, il m'a téléphoné en me disant, dites-moi ce que vous pensez qu'il serait possible pour mettre en place un travail analytique dans le service. Alors j'ai été passer 2 jours et 2 nuits là-bas pour essayer d'entendre comment ça fonctionnait, aussi bien au niveau de l'équipe que les arrivées de bébés, les arrivées de parents. Et je lui ai proposé, ce qui était quand même assez osé, hein. Je me suis dit que jamais il accepterait, finalement il a accepté, ça fait 20 ans que j'y travaille, je lui ai proposé de mettre en place une réanimation commune, c'est-à-dire de réanimer les bébés avec lui. C'est-à-dire que ça, je savais que dans la plupart des services de réanimation, il y avait des psychologues, et des psychologues extrêmement utiles au service, qui intervenaient quand les médecins demandaient leur intervention, c'est-à-dire... on peut dire sur prescription, on pourrait dire. C'est-à-dire, ces parents-là ne vont pas bien, cette maman pleure tout le temps auprès de la couveuse, ce père est très agressif. Voyez les parents. Donc, ça, j'avais compris que c'était un problème. Parce que les premières mamans que j'avais reçues, elles arrivaient pour me rencontrer en me disant, vous rendez compte déjà qu'on est dans un malheur absolu, déjà que vraiment ce qui nous arrive est une horreur totale, que reprendre notre enfant nous pose beaucoup de questions. En plus, maintenant, l'équipe nous signifie qu'on est folle en nous demandant de rencontrer une psychanalyste. Donc ça, effectivement, ça m'a semblé quelque chose d'impossible. C'est pas le temps, me semble-t-il, ce temps de drame qui survient là dans le réel, pour que des parents soient à même de faire une demande d'analyse, voire même pour qu'ils demandent un travail de thérapie. Par contre, proposer à tous les parents un accueil qui est d'une part l'accueil du médecin, qui va être le médecin référent de l'enfant tout au long de son hospitalisation, qui tiendra les parents informés de tout ce qui se passe médicalement pour lui, et un accueil également en même temps du psychanalyste du service, ça me semble être une chose différente. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons aux parents, voilà, dans le service, vous verrez ce médecin qui suivra votre enfant tout au long de son hospitalisation, et également Catherine Matelin, qui est psychanalyste pour les bébés du service. C'est pour les bébés que je suis là, en fait, hein. Pas pour les parents qui auraient des problèmes, ni pour les médecins qui auraient des problèmes. Je suis là pour les bébés, pour qu'ils essaient de trouver la voie, de trouver le chemin qui leur permette de vivre. Alors, je vois tous les bébés à qui je parle. Je fais une visite. Il y a une visite dans le service où les médecins vont de couveuse en couveuse, une visite que je suis. Il me semble que c'est extrêmement important que je fasse partie de l'équipe médicale, c'est-à-dire j'ai besoin, contrairement à certains psychanalystes, j'ai besoin pour travailler d'être au courant de ce qui se passe pour l'enfant dans son corps, au courant de ses soins, au courant de ce qui va devoir vivre, de ce qu'il a vécu au moment de l'accouchement, de façon concrète, être au courant de ce qu'il y a sur les dossiers. De ces dossiers, je parle au bébé et je parle aux parents, bien entendu, quand ils viennent me voir, et je dis aux parents, voilà, on fait tous partie de la même équipe. Vous, les parents, vous faites partie de notre équipe à partir d'aujourd'hui. Et nous allons essayer de faire en sorte que ce bébé aille le mieux possible, et le mieux possible à tout point de vue. Donc nous avons besoin de vous, comme vous, vous avez besoin des machines, des médecins qui savent les faire marcher, des diagnostics et des indications thérapeutiques. Donc à partir de ce moment-là, à chaque visite, j'explique au bébé ce qui va se passer dans le service pour lui, et je lui parle aussi beaucoup de sa famille. Je lui parle de ses frères, de ses sœurs, des parents qui l'attendent, de ce dont nous avons parlé avec les parents au rendez-vous que nous avons eu ensemble. Je parle aussi avec les parents et le bébé autour des couveuses. Et très régulièrement, je revois les parents pour que nous évoquions ensemble et les progrès du bébé et ce que les parents ressentent du lien qu'ils ont à cet enfant-là, également de ce qu'ils ressentent, de ce que les médecins leur ont dit et de ce qu'ils ont le sentiment de vivre, parce que quelquefois il y a un décalage. Par exemple, des parents peuvent être absolument rassurés certains jours et les médecins très inquiets, ou le contraire, ou des médecins rassurés et les parents continuent à être inquiets. Et donc moi j'essaie de repérer, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir ce qui se passe véritablement au niveau médical, parce que j'ai besoin de repérer ce qui va faire la différence entre ce qui leur aura été dit et leur fantasme. Et c'est dans cet entre-deux-là que je vais pouvoir un peu travailler avec les parents et les questionner sur, tiens, mais comment se fait-il que vous ayez entendu ça? Essayer de repérer ce qui, dans leur histoire, pourrait faire qu'ils vont entendre les choses plutôt d'une façon, plutôt d'une autre. La place que va prendre ce bébé. Alors là, comment me psychanalyse? Je veux dire, je ne fais pas de différence avec mon travail non seulement à l'hôpital, mais avec mon travail en clientèle privée, de repérer la place que ce bébé va prendre dans le fantasme des parents, et en plus avec l'imprévu terrible de cette naissance tout à fait prématurée. L'équipe, au début, a été un peu déroutée que je ne reçoive pas les parents comme ça sur prescription, que je les vois tous, et en même temps pas tant que ça. En même temps pas tant que ça, parce qu'ils ont été et agréablement surpris. Ils ont été surpris que les parents parlent aussi facilement. Et que il fallait pas grand chose pour poser une question. qui allait faire que les parents se sentent beaucoup plus présents, beaucoup plus investis, avec une place différente. Parce que, évidemment, ces bébés qui sont devenus tellement l'objet de la science, l'objet de la médecine, on voit bien, dans un premier temps, les parents se reculent. On ne veut pas vous déranger, on ne veut pas vous déranger. Et si on travaille suffisamment avec l'équipe pour que l'équipe puisse simplement dire « Écoutez, là, pour tout de suite, on travaille, oui, mais vous savez, on a vraiment besoin de vous, vous nous dérangez en aucun cas. Votre bébé ressent votre présence et c'est très important que vous soyez là. » Très rapidement, on change le ton. C'est tout le ton. C'est très étonnant de voir comme la couleur entière d'un service peut changer quand on pose un petit peu les questions autrement et qu'on est peut-être un peu moins happé par la problématique exclusivement du soin. Alors, soin au bébé dont il a absolument indispensablement besoin, mais du coup aussi soin aux parents, qui va être le soin psychologique dont on pense que les parents ont besoin. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. C'est aussi et avant tout de créer un lieu, de faire une ouverture de lieu où les parents vont pouvoir parler, où le bébé va être considéré comme un être humain, où on va s'adresser à lui. Ce qui n'est pas facile quand on réanime un enfant, surtout un grand prématuré, un bébé de 500 grammes, il faut vraiment aller le chercher hein, pour qu'il vous réponde, mais il répond. Il n'y a rien de plus bavard qu'un bébé de 500 grammes. Les bébés de 24 semaines, si on prend un tout petit peu de temps, je sais bien que c'est très difficile pour les médecins, mais un tout petit peu de temps auprès de la couveuse, que les infirmières, quelquefois les puéricultrices, peuvent faire peut-être plus facilement, mais même les médecins, quand ils les examinent, ils y arrivent très bien quand ils prennent le temps. Le bébé est incroyablement réactif. Dans les moments où il est moins sédaté, dans les moments où il se réveille un peu, la soif de communication d'un bébé prématuré qui est là, accroché à votre regard, qui cherche la présence, qui cherche la voix, qui ouvre la bouche dès qu'on s'adresse à lui, est absolument étonnante. Et il suffit de le faire remarquer, quelquefois, aux médecins, aux puères et aux parents. Pour que la relation au bébé change tout à fait et que ce qui me semble essentiel et ce sur quoi on a maintenant fait beaucoup reposer le travail dans le service, sur le fait qu'on puisse supposer du sujet chez le bébé. C'est-à-dire nous nous adressons à un sujet, à un bébé avec son prénom, à un bébé garçon ou à un bébé fille. Dans cette seconde visite qui est faite après la visite purement médicale où on échange les données de survie de l'enfant, on échange d'autres données qui sont aussi des données de survie. L'important, c'est d'entraîner l'équipe. Je travaille dans une équipe vraiment très attentive à tout ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé depuis 20 ans, fait beaucoup de réunions, beaucoup discuté ensemble. Très attentive à tout ça. Ce qu'on va échanger dans la première visite, ce sera les données de survie. Et dans la deuxième visite, ce sera aussi des données de survie. C'est-à-dire que parler de l'histoire de l'enfant, cette histoire qui a existé bien avant qu'il ne naisse prématurément, et qui va exister bien après, pourvu qu'on arrive à le maintenir vivant et à ce qu'il aille bien, cette histoire va continuer si rien n'est venu interrompre le cours de cette histoire. Or, l'idée, c'est que cette hospitalisation ne vienne pas interrompre le cours de l'histoire de ce bébé, ne viennent pas vider cette histoire de son sens et donc lui permettre de s'y retrouver en parlant au bébé de son histoire avant, de sa naissance, de ce qu'il va vivre après. On crée comme ça un lien dans le temps qui laisse un peu moins en suspens, en blanc, ce temps de réanimation qui, s'il reste en blanc, évidemment, pose énormément de problèmes au moment de la sortie et rend les parents, quelquefois, extrêmement invalidés dans la possibilité de reprendre cet enfant et de le reconnaître comme étant le leur. Alors, il suffit, par exemple, on a pris l'habitude comme ça dans l'équipe, il y a effectivement comme des protocoles qui se sont mis en place à côté des protocoles médicaux. Les mamans, évidemment, arrivent le matin. Comment va-t-il ? Première question à la personne la plus près de la couveuse, qui est souvent la puéricultrice qui s'occupe du bébé. Comment va-t-il ? on a pris l'habitude de dire, on va vous dire, mais dites-nous aussi, vous, comment vous le trouvez ce matin. Alors, vous voyez, c'est une petite phrase banale, comment vous le trouvez ce matin. Mais quand on est près des mamans, dans ces conditions-là, et des pères, on voit bien que le problème, c'est que les mères ne le trouvent pas. Déjà pour faire sien ce bébé, déjà pour le reconnaître, déjà, vous voyez, si vous posez la question à une maman, à qui ressemble-t-il, vous avez l'impression de lui parler en chinois. Je veux dire, d'un coup, elle vous regarde, elle dit, mais comment ça, il ressemble à rien, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Autant un bébé à la naissance, si vous allez à la maternité, on va chercher les ressemblances avec la cousine, l'oncle, la sœur, le frère, le père, la mère. Autant là, il est terrifiant, ce bébé. Il ressemble d'ailleurs souvent à un vieillard. Et les parents ont énormément de mal à projeter une idée d'un lien familial avec ce bébé. Est-ce qu'il est bien le mien ? Combien de mères nous disent « Mais vous savez, si vous ne me disiez pas que c'est le bébé qui est sorti de mon ventre, je ne pourrais pas m'en rendre compte. » Donc là, il y a quelque chose de très très difficile. Et simplement pouvoir dire quelque chose comme « Comment le trouvez-vous ? » on essaie de relancer en fait ce que Winnicott appelait la maladie maternelle primaire, qui est une maladie, puisque Winnicott l'appelle comme ça, absolument nécessaire. Nécessaire parce que sinon, le lien de la mère et de l'enfant ne va pas se créer. Vous savez que pour les psychanalystes, un bébé n'existe pas. Il existe avec la personne qui s'occupe de lui. Le bébé à la naissance, même s'il n'est pas du tout prématuré, s'il est un très gros bébé qui naît au 9e mois, est prématuré, parce que l'être humain est prématuré. Il ne sait pas vivre tout seul. Il a totalement besoin de l'autre. Il puise sa vie et toute sa construction psychique dans l'autre. Donc, il y a un psychisme pour deux, et le sujet, bébé, le sujet, est chez l'autre. L'autre, c'est la mère, ou la personne qui s'en occupe. Donc le problème, c'est que si cette maman est rendue incapable par la réanimation, par le service, non pas parce que le service est mauvais, hein, mais parce que la séparation d'avec le bébé, la coupure d'avec le bébé, fait qu'elle ne peut pas supposer de sujet chez cet enfant, le psychisme du bébé ne va pas se construire, et on va se retrouver face à un temps où l'enfant sera objet. Alors, au tout début de sa vie, l'enfant, il est objet de la mère, toujours. Mais là, il peut même plus être objet de la mère, il devient objet de la médecine. Alors, il est objet de la médecine, pour ça, les médecins ont beaucoup de travail à faire, parce qu'ils ont leur travail de médecin, et il faut encore qu'ils investissent cet enfant comme un objet qui vont suffisamment les satisfaire, d'où le problème des réanimations très pointues d'ailleurs, comme un objet qui va suffisamment les faire jouir, pour que ce bébé trouve la force et l'envie d'exister. Donc vous voyez, il y a à plusieurs niveaux, au niveau des parents, au niveau de l'équipe, c'est tout à fait important que cette place de l'enfant sujet, supposé sujet, puisse être faite. Donc c'est beaucoup à ça qu'on va travailler. Et c'est vrai que dire à des parents « Comment le trouvez-vous ce matin ?», c'est leur injecter le virus de la préoccupation maternelle primaire qu'ils risquent de perdre s'ils sont en néonate, ou évidemment c'est les machines qui savent, c'est les médecins qui savent, c'est la science qui sait, mais eux ne savent plus rien. Donc on peut leur laisser entendre que c'est pas tout à fait vrai, qu'eux savent plein de choses sur ce bébé. Alors évidemment quand on arrive à travailler comme ça, on permet que le jour de la sortie se passe le mieux possible. On permet aussi à la mère d'accoucher. C'est très curieux. J'ai toujours été extrêmement intéressée parce que j'entends dire de tous les services de réanimation la plupart du temps où le soin, c'est de préserver le lien mère-enfant. Et de faire en sorte que la mère et le bébé ne se quittent pas. Et j'ai été, moi, étonnée de constater, bien sûr, que préserver ce lien, tout dépend comment on le préserve, qu'est-ce qu'on entend par préserver le lien. Bien sûr que c'est important et que c'est d'une certaine façon aussi le travail que nous faisons dans notre service. Mais ce que je veux dire, c'est que curieusement, je ne pense pas que le bébé souffre d'avoir été privé de sa mère ou que la mère souffre d'avoir été privée de son bébé tant que ça. Je pense au contraire que la mère et le bébé souffrent de ne pas avoir été privés l'un de l'autre. Alors, c'est un peu étrange à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a eu une coupure tellement violente dans cet accouchement, quelquefois par césarienne, parce que l'enfant était en danger, ou la mère en danger, une coupure tellement violente dans cet enfant qu'on a arraché à la mère, que cet arrachement n'a pas fait naissance, et que l'enfant n'est pas véritablement né. Et donc, je crois que le temps d'hospitalisation va être un temps, si on l'emploie correctement, qui va nous permettre de mettre cet enfant au monde, véritablement. La mère va pouvoir, là, être séparée de lui. Donc, le service se trouve, c'est ça qui est sans doute, qui nous met un peu en décalage par rapport sans doute à beaucoup d'autres services. C'est le risque quand on fait entrer la psychanalyse dans un service, que ce soit en décalage. Ce qui nous met en décalage, c'est la position en tierce. C'est-à-dire que nous, on travaille plus pour qu'il y ait de la coupure que travailler pour qu'il y ait à nouveau du lien, puisqu'on pense que quelque chose ne s'est pas fait de cette naissance. Alors, quand il s'agit de handicap, eh bien, nous parlons de ce que nous savons. C'est d'ailleurs très intéressant parce que là, on voit bien que comment ça la question du savoir se distribue là entre les médecins et les parents, qui savent toujours autre chose que ce que les médecins savent. Et on essaie dans cet entre-deux de parler de ce qu'on peut. De ce qui pourrait être le handicap, certes, comme les médecins l'ont énoncé, mais surtout des effets que ça va avoir dans la famille et sur les parents. Donc à partir de là, essayer de mettre en place, bien sûr, un suivi, si les parents le souhaitent. Vous voyez, rien de... Moi, je pense qu'on ne peut rien faire de systématique, qu'on ne peut... Ce qu'on peut systématiquement, c'est être à l'écoute. Ça oui, être à l'écoute systématiquement de l'histoire d'un bébé, de pouvoir lui restituer cette histoire, et à l'écoute systématiquement de la détresse des parents, ça c'est du systématique. C'est pour ça que le choix que j'ai fait, c'est de voir tous les parents en leur expliquant que j'étais là, pour eux certainement, mais surtout pour le bébé. Alors... évidemment, c'est un service de réanimation de niveau 3, donc avec des bébés extrêmement petits, extrêmement malades. Vous savez qu'aujourd'hui, les bébés sont réanimés jusqu'à 24 semaines et à partir de 500 grammes, donc des bébés qui naissent très très tôt. Et qui évidemment sont d'une extrême, extrême fragilité. Et certains de ces bébés ne vivent pas. Certains de ces bébés vivent, mais avec des séquelles, bien que la sagesse des médecins et le rôle des médecins, c'est non seulement de réanimer les bébés, mais aussi de pouvoir prendre la décision très difficile d'arrêter une réanimation. Mais malgré ça, certains bébés peuvent sortir avec des séquelles, ce qui nous met au travail d'une façon particulièrement forte auprès des parents. Quand je suis entrée dans le service, c'est vrai que la question de la mort, on en parlait le moins possible. On en parlait le moins possible et les parents étaient prévenus que l'enfant était mourant. Et quelquefois arrivait, le bébé était déjà à la morgue. Enfin, moi, je me souviens au début, j'étais très étonnée. À peine je me retournais, la couveuse n'était plus là et le bébé était descendu à la morgue. Donc, pour les parents, c'était absolument terrible quand ils arrivaient, et pour le bébé aussi, mais aussi pour l'équipe. Et en travaillant avec les soignants, avec les médecins, mais aussi les paramédicaux, je me suis bien rendu compte très rapidement de la souffrance que ça représentait pour eux. Et on en a beaucoup parlé ensemble. Et puis, on a été, vous savez, ce sont les patients qui vous enseignent toujours. C'est quelque chose qu'on sait quand on est analyste, pour le vivre quotidiennement. Mais là, les médecins aussi s'en sont bien rendus compte avec moi. On a été enseignés par une petite fille chinoise, il y a une dizaine, 12 ans, quelque chose comme ça, une petite fille absolument adorable, qui est née dans notre service et qui est restée 7 mois, au bout desquels elle est morte, parce qu'il lui fallait une greffe cœur-poumon et qu'on n'a pas pu avoir de greffe compatible pour elle. Et tous les matins, on était là, on regardait sur Internet si on avait quelque part dans le monde un signal qui nous permettrait de greffer ce bébé. Et on ne l'a jamais eu, donc on savait qu'on accompagnait cette petite fille vers la mort. Donc là, la question se posait un peu différemment. C'était pas un arrêt respiratoire brutal, c'était pas une morsure comme ça qui nous aurait surpris. On savait qu'on accompagnait cet enfant, donc on s'est dit qu'on allait y travailler très sérieusement. Et cette petite fille nous a forcé notre respect, vraiment, et nous a appris comment on allait recevoir ses parents, sa famille, comment on allait s'occuper d'elle, parce qu'elle nous demandait une présence absolue et extrêmement fine. Et elle nous a forcé à lui parler, parce que dès qu'on ne lui parlait pas, elle faisait des malaises. Donc elle nous a bien forcé à lui parler. Et puis on ne pouvait pas lui dire n'importe quoi à cette petite fille, hein, il s'agissait de lui parler vrai. Alors on est resté auprès d'elle des jours, des nuits pour l'équipe de nuit, et elle nous a appris qu'une vie de 6 mois, c'était malgré tout une vie, qu'une vie de 8 jours, c'est une vie, que ces bébés qui sont là avec les parents qui nous disent c'est tout à fait difficile, hein, de recevoir pour les médecins les parents dans ces moments-là. Les parents qui nous disent, écoutez, puisqu'il est entre la vie et la mort, vous nous dites que vous ne savez pas s'il va vivre ou mourir, si vous allez devoir arrêter la réa ou pas. Nous ne venons pas, nous ne viendrons que quand vous nous direz qu'il est sauvé, parce que c'est pas la peine d'investir un bébé avant qu'il vive, on va souffrir inutilement. Et voilà, et les psychanalystes... parce qu'on a reçu beaucoup d'enfants et d'adultes, on sait bien que ces histoires-là, c'est pas vrai qu'on souffre pas. Ni que ça laisse des traces pour les autres enfants de la fratrie, pour les enfants à venir par la suite. Et donc on parle avec les parents, les médecins, moi, mais vous savez, je crois que ils ont pratiquement plus besoin de moi aujourd'hui. Avec ces quelques données de travail, il n'y a pas besoin. Alors si, peut-être dans des cas très difficiles pour pouvoir suivre une famille un peu plus, mais sinon pour le travail quotidien, ils ont tout à fait cette idée-là maintenant dans le service de travailler comme ça. Et quand les parents nous disent on se retire, on attend, c'est trop difficile, on dit mais on parle avec eux, on les fait parler de pourquoi c'est si difficile, et c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde, mais que pour nous aussi, mais que le bébé, c'est leur bébé, qu'il est là, qu'il a droit à notre accueil, à notre accueil d'humain, dans un monde d'humain, à la présence de ses parents, et que nous, on les forcera pas, jamais. L'idée dans le service, c'est que si une maman veut pas prendre son bébé dans les bras, elle le prend pas. Si un papa veut pas entrer dans le... il n'entre pas. On parle avec lui pour essayer de l'amener à se sentir plus à l'aise et à pouvoir le faire. Mais jamais on ne va au forcing et jamais on ne culpabilise sur le mode « Ah quand même, les parents doivent s'occuper des... » Non, non, si vous en occupez pas, c'est que vous avez vos raisons. On veut tout à fait bien en parler avec vous, par contre, de ces raisons-là, qui sont certainement très valables et très douloureuses, mais parlons-en. Or, ce bébé, pour les parents, pouvoir accompagner un enfant dans la mort, être avec lui jusqu'à la fin de sa vie, lui dire qu'on l'aime et qu'on est content qu'il soit là, de toute façon, et pouvoir aller jusqu'au bout de cet accompagnement, même si c'est difficile, douloureux, pour les parents, pour toute l'équipe. Il y a une infirmière qui m'a dit une fois, « Ah, dis donc, avant que tu arrives, on pleurait pas hein, dans le service maintenant. Depuis que tu es là, on pleure. » Mais en même temps, c'est plus intéressant comme travail. Donc, je veux dire, c'est vrai que pouvoir accompagner ses parents et ce bébé, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est extrêmement précieux pour les médecins et pour les pleuricultrices qui vont pleurer au moment du décès peut-être ou en fonction des réactions des parents, mais qui iront certainement mieux après la mort de l'enfant que quand de la couveuse ils passaient directement à la morgue sans qu'on l'ait accompagné, sans qu'on lui ait dit au revoir, sans qu'on ait été proche de lui, proche de sa famille, sans que quelque chose s'inscrive du côté du symbolique. Voilà, on multiplie les rituels pour que ça s'inscrive un peu, que ça ne reste pas l'horreur de ce réel qui est le corps d'un bébé de 500 grammes qui vient de naître et qui a toutes les chances de mourir ou d'être gravement handicapé. Il y a aussi une dimension où on essaie de voir comment le bébé évolue, où on fait attention que le bébé, du point de vue psychique, je veux dire, en même temps que du point de vue médical, où on essaie de voir les signes qui pourraient nous laisser craindre que le bébé se déprime, parce que les bébés, bien sûr, qui se dépriment, la dépression existe chez ces prématurés. Ils quittent notre regard, ils se mettent à s'intéresser essentiellement en fait à leur machine. Ça, c'est quelque chose de très troublant à voir. C'est-à-dire que il y a des moments comme ça où les bébés ne répondent plus tellement au regard ou à la voix ou aux mots qu'on leur dit, mais ils se replient sur eux-mêmes, qui sont comme repliés sur leur douleur. On a l'impression qu'ils s'accrochent. On a l'impression qu'ils s'accrochent quelquefois par exemple au tuyau de l'oxygène, comme à une bouée de sauvetage. Ils sont là à le regarder fixement, à pas le lâcher, peut-être pour moins souffrir ou peut-être pour avoir le sentiment qu'ils existent encore. Et dans ces moments-là, on voit bien que c'est un peu comme un navire qui s'éloigne. Vous voyez, le bébé, on n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Donc on essaie par tous les moyens, en y passant quelquefois des heures. Ça me fait souvent penser, moi, au travail que je fais quelquefois avec les autistes, d'aller les chercher là où ils sont. On peut passer des heures et puis comme j'ai toujours sur mon épaule une puéricultrice ou une aide-soignante ou un médecin, et ben au bout d'un moment tout le monde fait comme moi quoi. Les gens qui travaillent avec ces bébés vont les chercher. On dit, non, reste avec nous, t'en vas pas comme ça. On peut passer des heures pour le ramener vers la rive comme ça. Et c'est vrai que c'est souvent extrêmement concomitant. Avec des moments où il va plus mal, avec des moments où médicalement on lui court après aussi, hein, je veux dire. Mais disons que on essaie que ce soit à plusieurs niveaux, dans plusieurs registres, de façon différente. On essaie de récupérer ce bébé, voilà, parce que maintenant dans l'équipe on part du principe que les bébés parlent aussi avec leur corps si on arrive à entendre ce qu'ils ont à dire, peut-être ils n'auront pas besoin de l'exprimer en tombant plus malade ou en ayant des aggravations. Donc voilà, on essaie de rattraper ces bébés-là en étant le plus proche d'eux possible, et on voit bien l'effet de la parole sur le corps. Je souris parce que je me souviens que le médecin-chef, quand j'ai au bout de quelques années de travail là-bas, quand il voyait que les bébés bougeaient quand même, changeaient, quand je passais du temps à leur parler, des fois quand ils refusaient de s'alimenter, ça c'est pareil pour les plus grands, ils recommençaient à accepter le biberon et tout ça, il me disait « Vous êtes une sorcière, vous êtes une sorcière ». Ben oui, parce que ça peut paraître comme pour de la sorcellerie, n'empêche que les paroles ont un effet sur le corps, que le corps de chacun est différent et que chaque corps va réagir différemment aux paroles qui lui sont dites en fonction de son histoire. C'est de ça dont on essaie de tenir compte, c'est de cette histoire dont on essaie de tenir compte dans le service où je travaille. Alors, peut-être une des raisons qui fait que j'ai pu travailler en réanimation, c'est l'admiration que j'ai pour les réanimateurs. Je veux dire, contrairement des fois à quelques analystes à qui on entend dire « Oh là là, c'est des techniciens ou ils pensent qu'à réanimer ou je sais pas quoi. » Enfin bon, là, moi, ça fait un moment, j'ai passé du temps avec eux hein, toutes ces années. Et je suis très très admirative du travail qu'ils font. Je trouve ça d'une difficulté incroyable, incroyable. Quand vous disposez de 3 minutes et demie en salle de travail pour savoir si vous allez prendre la décision de réanimer ou de ne pas réanimer un enfant, connaissant très bien tous les risques de séquelles, connaissant très bien le drame, parce qu'ils ne méconnaissent pas, jamais, c'est pas vrai, c'est vraiment une vision idiote des médecins de penser qu'ils ne tiennent pas compte de ce qui est psy. Je veux dire, bien sûr que si, ils s'en tiennent compte. Et quand ils sont là à se demander s'ils vont réanimer un enfant, ils sont les premiers à me dire, tu sais, quand je dois prendre cette décision, c'est un problème pour moi, quand j'ai croisé les parents, ou quand je connais les parents avant. Ou... Évidemment qu'ils en tiennent compte, ça n'est pas possible de ne pas en tenir compte. Ils sont très profondément humainement touchés, et quelquefois très perdus dans la possibilité de répondre. Alors, prendre la décision de réanimer, ensuite, une fois le bébé en réanimation, outre l'extrême, c'est extrêmement pointu comme médecine, outre l'extrême difficulté médicale, ensuite toutes les questions de on poursuit la réanimation, on poursuit pas la réanimation, quels vont être les risques de séquelles, comment les évaluer, comment en parler aux parents, je veux dire, c'est incroyablement lourd. C'est vrai qu'ils ont besoin tout à fait de pouvoir en parler, alors en parler entre eux certainement, mais aussi en parler à plusieurs, en équipe, avec moi. J'essaie comme je peux au maximum de toujours être là dans les moments où ils ont besoin de moi pour pouvoir parler des émotions. Vous savez, une équipe où on décide qu'on va tenir compte des émotions, de celle du bébé, de celle des parents et de celle aussi des médecins, je peux vous dire que ça change beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a un des médecins qui travaille chez nous qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, on était dans un moment tout calme, la visite était passée, les soins du matin étaient terminés, il y avait un moment où les parents n'étaient pas encore arrivés. Et les médecins remplissaient les dossiers. Moi, je parlais tout doucement au bébé d'une couveuse à l'autre. Enfin, c'était un moment assez serein. Rien ne sonnait. Et il y a un médecin, il arrive et me dit « Ah, dis donc, tu entends le silence comme c'est silencieux, service ?» J'ai dit « Oui, en effet. » Et il me dit « Mais est-ce que tu entends bien ce silence ?» Je dis « Oui, je crois. Pourquoi qu'est-ce que tu penses que j'ai à entendre ?» Il me dit « Mais tu sais, depuis qu'on parle ensemble, ici, le silence, il ne fait plus le même bruit. » Je trouvais que c'était quand même une phrase étonnante.